L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur notre podcast. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Sarah El-Idrissi, doctorante en sociologie. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter tes recherches ?
Merci. Alors du coup, je me présente, Sarah El-Idrissi, donc comme vous l'avez présenté, je suis doctorante en sociologie, donc je travaille sur les questions de santé, de lien social dans les quartiers populaires, dans la ville de Mulhouse particulièrement, et puis accessoirement aussi dans la ville de Strasbourg. Initialement, j'ai un parcours assez atypique, puisque j'ai fait des études d'économie initialement, et puis j'ai toujours été engagée dans le travail associatif. Au Maroc. J'ai ensuite eu l'occasion de travailler un petit peu dans l'observation des élections après le printemps arabe, donc du coup en Libye, en Égypte et en Tunisie. Et puis je me suis retrouvée la première fois en France du coup en 2013 où j'ai effectué un master en ingénierie de projet en économie sociale et solidaire. Et je suis retournée travailler sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie, donc pendant 6 ans. Et donc du coup, ça fait 3 ans que je suis retournée en France pour poursuivre ces travaux de thèse qui venaient faire sens après ce parcours-là.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette thèse et les sujets qu'elle aborde ?
Il s'agit d'une thèse menée dans une démarche de recherche-action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui faisait sens, en tout cas pour moi, c'était de pouvoir faire de la recherche et faire de la recherche qui fasse sens. Et donc, automatiquement, pour faire sens, il fallait nécessairement que cette recherche puisse servir aussi, et donc servir aussi bien pour celui qui l'amène, mais aussi pour les acteurs. Des territoires qu'elle vise, et c'était un peu ça le point de départ. Donc l'idée à travers cette thèse, c'était vraiment de s'intéresser aux dynamiques citoyennes et aux dynamiques sociales et politiques et urbaines dans un contexte de crise sanitaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche qui est porté par la chaire économie sociale et solidaire, qui est partenaire du coup de votre structure, et l'axe de recherche s'intitule « Comment faire société avant et après la crise sanitaire du Covid-19 ». Donc c'est vraiment autour de ce point particulier, de comment on peut faire société dans ce contexte de crise. Je ne sais pas s'il est toujours pertinent aujourd'hui de parler d'un avant, d'un pendant et d'un après, parce que c'est un après qui se dilate, sachant que la crise sanitaire est encore là. On en parle moins, mais le virus est encore présent, et je pense que c'est autour vraiment de ces enjeux-là, autour des questions du soin, des questions de santé, des questions de faire société, du lien social et de solidarité aussi, que s'articulent ces travaux-là.
Il y a la question des approches communautaires de santé. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'une approche communautaire de santé ?
Alors, comment on en est déjà arrivé à parler d'approche communautaire de santé, ce qui a été intéressant dans le travail qui a été mené tout au long de ces 3 ans, c'est vraiment de s'intéresser au territoire et à la production des inégalités dans ces territoires. Parce que la question des approches communautaires de santé vient répondre aussi, je dirais, pallier quelque part cette question des inégalités. Et puis ce qui est intéressant, c'est que, alors, les inégalités, il y en a. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les inégalités se construisent. Et donc, essayer vraiment de décortiquer cette fabrique des inégalités, notamment à l'échelon d'un territoire, et de comprendre comment du coup différents rapports d'inégalités peuvent s'imbriquer finalement. Ça nous amène aussi à d'autres concepts et à d'autres questions, comme la question de l'intersectionnalité, comme la question des inégalités de genre, les inégalités sociales. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'ISS, donc d'inégalités sociales de santé. Et la question des approches en tout cas communautaires de santé, elle est venue, elle s'est un peu, je dirais qu'elle s'est un petit peu imposée dans le sens où finalement face à, dans des situations de crise où les appareils, je dirais, l'appareil institutionnel, et quand je dis appareil institutionnel, c'est pas uniquement l'État, mais c'est les différents instruments qui sont mis en œuvre, déployés au niveau des territoires, peinent à agir de manière efficace, parce que justement, on est dans ce contexte d'urgence, de crise, et donc du coup, plusieurs habitants, la population de manière générale, notamment dans les quartiers populaires, c'est un petit peu retrouvé confronté à elle-même, et donc d'où ces mécanismes d'auto-organisation, alors qui s'articulent autour de l'entraide, des solidarités, ont fait que ça a permis vraiment d'accompagner tout le travail qui était mené par les institutions et tous les efforts menés aussi par la société civile et par les associations et les acteurs des territoires. Les approches communautaires de santé sont aujourd'hui des approches qui sont déjà promues par l'Organisation mondiale de la santé. Pour information, la santé communautaire a été inscrite dans la charte d'Ottawa en 1986. Donc on parle quand même d'approches qui sont bien là, bien inscrites dans ce référentiel, je dirais, international, bien avant. Ça a été aussi une notion qu'on a beaucoup exploré et investi avec l'épidémie du sida, du VIH, déjà bien avant, donc du coup durant les années 80, et c'est justement grâce à des mouvements de lutte des personnes séropositives et des usagers qu'on a pu renforcer du coup ce l'ancrage de la santé communautaire. Et ça part d'un certain nombre de principes de base, de penser d'abord la santé avec les usagers et les usagères du système de soins et des systèmes de santé publique, de travailler sur la reconnaissance des savoirs invisibilisés et donc des savoirs expérientiels. On parle davantage de l'expérience de la personne malade, on parle aussi, plus tard on a commencé à parler de concepts autour du patient expert, mais on estime aujourd'hui qu'une personne ou qu'une personne par exemple atteinte du diabète depuis une vingtaine d'années, elle développe quand même une expertise par rapport à sa maladie, ou du moins en tout cas une connaissance et un savoir par rapport à sa maladie, et qui pourrait être partagé, diffusé, transmis, et pour cela c'est important de travailler sur cette reconnaissance, donc la reconnaissance de ces savoirs. Il y a aussi cette question de l'équité aussi quand on parle d'approche communautaire de santé. Il y a aussi, je dirais, cette question de l'implication ou de la participation des usagers, et donc comment dans des structures de santé on peut favoriser et valoriser du coup la participation des usagers et des usagères, comment on peut travailler cette notion de l'équité et de l'égalité, notamment dans l'accès aux soins, et donc ça rejoint tout un corpus de réponses à la fabrique des inégalités sociales de santé.
Aujourd'hui, on parle d'ISS, donc ces inégalités sociales de santé. Quel lien il existe entre les inégalités sociales de santé et les approches communautaires de santé? Je crois qu'on en a un petit peu parlé, mais tu peux peut-être nous en dire plus.
Oui. Alors, sur la question des inégalités, enfin le lien, en tout cas, comment ça s'articule, je pense qu'il y a, un point de départ justement autour de cette fabrique des inégalités sociales de santé, et puis on le voit concrètement dans un territoire, comment du coup les inégalités vont se construire, et donc généralement quand on parle d'ISS, il y a des travaux pionniers de Didier Fassin en France autour de cette fabrique-là, se rajoute un peu à ces travaux. Voilà cette question de travailler les imbrications des inégalités, donc avec le caractère intersectionnel, et donc on va s'intéresser aux inégalités de classe, on va s'intéresser aux inégalités territoriales, on va s'intéresser également aux inégalités de genre en matière de santé, et puis on va s'intéresser également aux inégalités raciales de santé. Et je pense que c'est l'imbrication aujourd'hui de ces différentes inégalités, parce qu'on peut subir du coup plusieurs types d'inégalités, et du coup voir comment ces inégalités s'imbriquent, et donc qui va ça va être une expérience singulière et propre à chaque usager et à chaque usagère. C'est-à-dire aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une personne par exemple racisée en situation de handicap, une femme en situation de handicap racisée, elle aura deux fois, trois fois, voire quatre fois plus de difficultés par exemple à accéder aux soins, et non pas que les soins ne soient pas disponibles, mais c'est aussi les effets du stigmate que peut porter la personne, et donc on va avoir aussi des pratiques de renoncement aux soins des personnes parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise pour aller consulter, parce qu'on fait face à des problématiques, par exemple, de désertification médicale. Ça peut être le cas aussi d'une personne âgée qui habite, dans un village qui a des difficultés d'accessibilité pour accéder à un médecin, qui ne veut pas, par exemple, voir un médecin ou consulter des professionnels en étant toute seule, donc il y a besoin d'avoir un proche aidant. Donc on peut faire face à une multitude de situations qui peuvent confronter plusieurs personnes à des situations qui sont extrêmement, à des traitements qui peuvent être extrêmement inégaux. Et ça amène justement à comment pallier ces problématiques, comment traiter cette question des inégalités. Alors, la question des inégalités, une fois on en est conscient de comment se construisent ces inégalités, comment on peut y pallier. Sur la question des inégalités territoriales, on parle davantage, et c'est un peu aussi le propre de cette question de l'approche communautaire de santé, c'est aussi cette dimension du territoire et cette dimension de la proximité. Et ça, je pense que c'est un enjeu central pour l'avenir aussi de la mutualité. Et un des concepts qui me paraît vraiment extrêmement important, c'est la question de la démocratie sanitaire. Et je pense que c'est aussi une question qui est au cœur des approches communautaires de santé, c'est remettre du soin dans la proximité. Et donc travailler cette question du soin, c'est pas uniquement avoir des médecins qui exercent en pratique libérale, mais c'est vraiment travailler, nourrir tout le lien social qu'il peut y avoir autour de la question du soin. Parce qu'au final, quand on parle de santé et de soins, ce n'est pas uniquement l'acte de consultation, mais souvent, la personne, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de pouvoir échanger avec d'autres personnes autour de ce qui peut lui arriver, ou de partager un certain nombre de bonnes pratiques. Et donc, du coup, d'être... finalement, c'est une question... on en revient à des notions très basiques, finalement, c'est du lien. On a besoin d'échanges, on a besoin de liens, et puis on a besoin d'attention. Et donc, je pense que c'est un peu le nerf du coup de ces approches communautaires. Je dirais, s'il y a aussi un concept ou s'il y a une notion centrale, je pense, à resituer aussi autour de la question du soin et de la santé et des approches communautaires de la santé, c'est cette question de la dignité. Et je pense que ça rejoint aussi cette notion de démocratie sanitaire. C'est vraiment remettre la dignité au cœur un peu des dispositifs et des questions du soin. Et ça, Cynthia Fleury, on parle très très bien dans son ouvrage Clinique de la dignité, qui est extrêmement intéressant à ce sujet-là.
Merci beaucoup. Alors, je crois que tu t'es très impliqué dans les territoires. Il y a eu la création d'un collectif Santé en commun et puis une expérience quand même de santé communautaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Ce qui a été intéressant dans le cadre de cette thèse, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une thèse qui est menée en recherche-action. Peut-être pour préciser, alors une recherche-action, c'est un peu une recherche qu'on mène tout en assumant une posture de chercheuse à la fois qui assume cette posture de chercheuse, c'est-à-dire avec une certaine distance, une certaine, ce qu'on appelle en sociologie, une certaine réflexivité, donc une prise de recul par rapport à l'objet d'étude. Mais moi, personnellement, ce qui m'a interpellée, c'est que quand je venais à peine d'arriver en France, de revenir en France pour entamer cette thèse, j'avais beaucoup de mal à moi-même trouver un médecin traitant. Et donc, je me disais, comment on peut prendre de la distance par rapport à un sujet quand on est soi-même sujet ou assujetti aux mêmes difficultés que le public qu'on est censé étudier, entre guillemets. Donc quand on est confronté aux mêmes difficultés, comment on peut prendre de la distance finalement par rapport à ces questions-là? Quand on travaille sur des questions qui touchent à l'intime, parce que c'est le cas du coup des questions du soin et de la santé est une question extrêmement intime et qui nous est intime à chacun et à chacune. Et donc ça a été vraiment un questionnement en boucle. Et donc la recherche-action permet justement de tenir cette posture réflexive, mais en même temps d'être engagé, impliqué dans le travail de recherche via du coup divers engagements. Donc c'est un peu dans le territoire, en tout cas à Mulhouse, là où j'ai mené cette recherche-action, je trouvais pertinent, nécessaire et important de s'impliquer dans les différents collectifs, associations locales, réseaux d'habitants, conseils citoyens, pour pouvoir m'imprégner, m'approprier la dynamique dans le territoire que je suis censée étudier. Et puis petit à petit, donc grâce à une rencontre, donc du coup avec Stéphanie Hubert, avec qui je pense que vous aviez déjà réalisé un autre podcast, et donc on parlait justement de ces questions du soin. Et c'est, alors le contexte est extrêmement important, c'était du coup lors des mobilisations par rapport à la réforme de la retraite. Et donc on avait des échanges avec Stéphanie, avec d'autres professionnels. Ce qui était intéressant, c'est que c'était on a vu naître un cadre un petit peu à la marge, et des professions, c'est-à-dire et des pratiques professionnelles, et à la marge aussi de ce contexte de lutte sociale, pour échanger, réfléchir, discuter autour de ces questions du soin. Et puis c'était aussi des professionnels du travail social, des travailleurs sociaux, et puis aussi des infirmiers, des sages-femmes, des psychologues, et puis des usagers, des usagères, des personnes qui avaient entamé des parcours de dépsychiatrisation, et ont discuté de qu'est-ce qui fait soin finalement pour nous. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est une dynamique qui s'est créée grâce à une projection débat qu'on avait organisé à l'université, donc avec un film sur la case de santé de Toulouse, une case d'avance. Donc ça a été un film réalisé par Stéphanie, qui avait travaillé pendant quelques années à la case de santé de Toulouse. Pour information, alors la case de santé de Toulouse est le premier centre de soins communautaire en France, et qui avait été initié, je crois, en 2006. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un film documentaire d'une trentaine de minutes qui avait été réalisé, je crois, en 2014-2015, si je ne me trompe pas, et qui finalement, les questions qui étaient traitées dans ce film documentaire avaient encore tout leur intérêt en 2022-2023, notamment dans ce contexte de sortie de crise sanitaire. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir redécouvrir un peu ce documentaire, et puis de voir à la lumière des enjeux qu'il présente, et puis de l'historique de ce centre de soins, qu'est-ce qui pouvait être fait à Mulhouse. Parce que c'est vrai que on est confronté à de nombreuses problématiques liées justement à la désertification médicale, à un accès inégalement réparti aux soins au niveau du territoire. Et donc on se disait qu'est-ce qu'on peut penser en termes de réflexion, mais aussi en termes d'action concrète. Et donc c'est comme ça que s'est constitué ce collectif, qui initialement s'appelait Forêt en Santé. Et puis après, bon, le nom a un petit peu évolué, Santé en Commun. Et c'était vraiment pour vraiment aborder, appréhender la santé comme un commun, chose qu'on a souvent tendance à oublier avec des approches de plus en plus libéralisées dans la manière de gérer les systèmes de soins. Et je pense que c'est important des fois de revenir à des notions de base, donc du coup à cette notion du commun, à cette notion de l'intime, à cette notion de rétablir des formes d'équité épistémique, même par rapport à ces concepts-là.
Alors justement, le commun, c'est un sujet qui est très important pour nous mutualistes. Comment les dynamiques et les réseaux de soins communautaires dans les quartiers peuvent-ils être articulés avec le monde de l'ESS et des mutuelles ?
Je pense qu'il y a un impératif, je dirais, d'abord, peut-être en France, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, démystifier, déconstruire cette notion du communautaire. Je pense qu'il faut déjà remettre peut-être du commun dans le communautaire. Alors on est souvent très très frileux à l'idée d'utiliser ce terme d'approche communautaire. Donc souvent on parle beaucoup, et c'est un concept qui est extrêmement intéressant aussi, c'est ce concept de santé sociale qui avait été très développé dans un ouvrage collectif de Nicolas Duvoux et Nadège Vézina. Alors santé sociale, pour faire court, c'est vraiment comment peut-on réencastrer la question du social dans les enjeux médicaux aujourd'hui, et puis comment on peut sortir justement de ces logiques un peu hospitalo-centrées ou médicalo-centrées pour remettre au cœur du débat la question sociale, parce qu'on ne peut pas traiter la question sanitaire et la question de la santé sans sans travailler la question des déterminants sociaux de la santé. Et aujourd'hui, pour traiter certaines pathologies, si on reprend le cas du diabète ou d'autres pathologies, une chose, c'est d'avoir, par exemple, de l'hypertension quand on a des difficultés économiques et quand on habite au 10e étage. Et une chose, c'est d'avoir les moyens et puis d'avoir accès à des ressources pour pouvoir se soigner. Donc, forcément, les enjeux sont différents. Et donc, du coup, forcément, cette question des déterminants sociaux de la santé, elle est extrêmement importante. Et je pense que la dimension où le travail communautaire peut être, alors sans pour autant en faire non plus la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'idéaliser les approches communautaires de santé, mais simplement pour dire que les communautés, au sens très large du terme, c'est-à-dire sans forcément enfermer cette notion du commun et du communautaire dans une seule et unique communauté qui serait figée, c'est vraiment de s'ouvrir, parce que finalement, en tant qu'humain, et je le vois bien moi dans cette posture de chercheuse au niveau du territoire, c'est qu'on est amené dans nos vies à faire partie de plusieurs communautés. Il y a des communautés de pratique, il y a des communautés de sens, il y a des communautés de projet, on peut être dans des communautés professionnelles extrêmement différentes. Et donc ça fait écho à la multiplicité, à la diversité des liens sociaux qu'on peut entretenir dans sa vie. On peut très bien aussi appartenir à une communauté ethnique, à une communauté, sans être enfermé dans cette communauté-là. Donc je pense qu'il faut déconstruire cette notion-là pour l'amener à évoluer et à lui donner du sens pour lui permettre de jouer un rôle au sein de nos sociétés, un rôle justement de médiation, d'intermédiaire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers, parce que les quartiers, c'est aussi encore une notion à déconstruire. Enfin, je dirais un peu un mythe à déconstruire, dans le sens où, finalement, penser aussi les quartiers, aborder les quartiers sous le prisme de leurs ressources et non pas uniquement sous le prisme de leur vulnérabilité. Et ça, je pense que ça peut être extrêmement intéressant, extrêmement puissant dans la manière d'aborder les questions du soin, mais pas que, parce que je pense que c'est des territoires et ce sont des espaces qui regorgent de ressources et d'inventivité, de créativité. Et je pense que ça soit au niveau de l'ESS ou au niveau de la mutualité, je pense que l'enjeu de taille est de travailler cette articulation avec les territoires, se reconnecter avec les territoires et puis avec les réalités des populations et puis des publics. Et je pense que l'enjeu, il est là, c'est-à-dire vraiment travailler cette articulation-là. Et puis, pour faire le lien peut-être avec l'économie sociale et solidaire, c'est vrai que l'ESS, avec la loi ESS du coup qui fête ses 10 ans cette année, je pense qu'il faudrait faire attention à ne pas, il faut faire gaffe à pas que le processus d'institutionnalisation ne nous fasse pas oublier les racines. Et puis c'était intéressant d'ailleurs parce que c'était dans le cadre des rencontres du RIUSS, donc du réseau interuniversitaire de l'ESS, et donc les dernières rencontres avaient pour intitulé, pour titre, l'ESS hors la loi. Et moi j'avais envie de dire il faut faire attention à cette et articuler, connecter avec cette ESS qui émane des marges. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à l'ESS aujourd'hui de s'institutionnaliser et donc de rester connecté aussi avec les assises et avec les territoires, parce que finalement on a toujours, je pense, défendu une ESS qui émane des territoires, et donc se déconnecter des territoires. Et quand on dit territoire, c'est aussi c'est se déconnecter des réalités territoriales. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est là, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire continuer d'habiter les territoires, habiter au sens vraiment large du terme, pour rester connecté, ancré dans ces réalités-là, ce qui nous permettrait du coup de pouvoir y remédier, de pouvoir en parler, de pouvoir tisser du lien et puis penser collectivement des solutions, parce que je pense que la question des approches communautaires de santé peuvent être une piste. Et sont une piste. Et après, je pense que la réponse, elle doit être forcément plurielle, parce que les enjeux sont pluriels. Et voilà.
Merci beaucoup. Tu as obtenu un PIR, donc un projet innovant et risqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, il s'agit d'un dispositif. Je ne saurais pas dire si c'est un dispositif qui existe dans toutes les universités. En tout cas, à l'Université de Haute-Alsace, et puis grâce à l'appui de collègues de la chaire Économie sociale et solidaire, donc on a pu écrire ce projet. Il s'agit d'un projet qui a pour objectif de mener, dans la continuité de la réflexion initiée avec le collectif Santé en commun, d'initier une expérimentation. Une expérimentation autour d'une monographie d'un centre de soins communautaire. Donc, pour plus concrètement, ça signifiait, en tout cas pour moi et puis pour le collectif, de pouvoir avoir un minimum de ressources pour travailler. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec un groupe d'étudiants du master ESS de Mulhouse, où on a travaillé pendant une semaine dans le cadre d'un dispositif méthodologique qu'on appelle les voyages apprenants. Et donc, dans le cadre d'un voyage apprenant, on a pu travailler avec un groupe d'étudiants, 11 étudiants et étudiantes. On a pu travailler collectivement sur cette expérimentation, et l'objet de cette expérimentation, c'est on passe le cap de la réflexion et de l'échange, et on va aller réfléchir si demain on doit créer un centre de soins, un centre de santé communautaire à Mulhouse, à quoi ce centre pourrait-il ressembler. Et sachant que les différents centres de santé communautaire sont extrêmement différents les uns des autres. Un centre de santé communautaire en Ardèche ne sera pas le même qu'à Toulouse, et ne sera pas le même qu'à Bourdieu-Villers, par exemple, à Mulhouse. Et donc c'est partant des problématiques du territoire. Alors, généralement, pour créer un centre de santé communautaire, on a 2-3 phases. Alors d'abord, il faut faire le diagnostic communautaire, ou ce qu'on appelle aussi l'enquête conscientisante, c'est-à-dire voir dans le territoire d'implantation où on a envie de créer ce centre, quels sont les besoins des populations. Est-ce qu'on est sur un territoire où il y a par exemple des problématiques, par exemple, liées aux personnes sans papier ? Est-ce qu'on a des problématiques liées à la parentalité ? Est-ce qu'on a un taux de natalité qui est extrêmement élevé ? Ce qui est le cas par exemple à Mulhouse, sauf qu'on a très très peu de pédiatres, on a très très peu de gynécologues. Et donc, est-ce qu'on est sur un territoire où il y a des enjeux de santé liés à la question du genre, par exemple ? Est-ce que, quand on est par exemple sur des territoires où il y a une forte natalité, est-ce que les personnes, les mamans ou les futurs parents connaissent du coup le kit des 1000 jours, par exemple ? Donc, tout un tas essayer de voir un peu quelles sont les problématiques qui existent, et puis essayer de construire après la phase du diagnostic communautaire, construire le projet santé du centre. Et donc de penser les différentes composantes du centre. Ce qui est intéressant dans un centre de santé communautaire, c'est qu'on ne parle pas forcément de salle d'attente, mais on parle plutôt d'une salle d'accueil. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un espace pour enfants, par exemple ? Parce que beaucoup de femmes ne vont pas consulter parce qu'elles cherchent quelqu'un pour la garde de leurs enfants. Et on sait que les centres socioculturels sont débordés, qu'ils ne prennent plus d'enfants, par exemple. Et donc, il faut pouvoir essayer de détourner toutes ces contraintes, tous ces enjeux-là. Et donc, on s'inscrit un peu dans une, je dirais, cette expérimentation, elle s'inscrit un peu dans une espèce d'innovation, de rupture, en fait, avec un statu quo, avec des ordres et puis des schémas établis, pour essayer de penser autrement et puis de proposer autre chose, de rompre les chaînes préexistantes pour essayer de construire autre chose avec, du coup, la population. Ce qui est intéressant au niveau de ces centres-là, et puis au niveau de cette expérimentation même qu'on a menée, et ça s'est manifesté, ça s'est décliné dans le travail avec les étudiants, c'est au-delà du rapport, c'est déconstruire le rapport sachant et nous on sait, vous savez pas. Et donc ça a été aussi intéressant avec les étudiants de sortir de ce cadre-là, d'un collectif qui passe une commande à un groupe d'étudiants qui et ce qui était intéressant, c'est que les étudiants disaient au début, oui mais nous on n'est pas experts de la santé. On disait non, on n'est pas experts non plus, mais on est tous et toutes usagers et usagères du système de santé. Donc on est au moins toutes et tous concernés par cette question-là. Et donc ça a été un véritable challenge pour nous de travailler vraiment en horizontalité avec les étudiants et de demander aux étudiants de partir de leur point de vue situé, de leurs propres expériences. Et donc de raconter chacun son rapport à la santé, son rapport aux soins. Et donc on est parti de là. Donc on a construit aussi à partir de nos expériences, de du soin et en tant qu'habitante et en tant qu'usager et usagère. Et voilà. Donc le pire s'articule vraiment autour de ça. Actuellement, alors le collectif c'est structuré, donc on a créé une association, donc c'est vraiment très très récent, et avec l'idée vraiment de d'articuler le travail mené avec les étudiants, avec le projet santé qu'on est en train de construire pour vraiment passer à la phase de concrétisation, donc dans l'échange avec les élus locaux, les acteurs, et puis voilà, pour penser le centre matériellement à Mulhouse.
Alors, tes recherches sont très riches d'un point de vue théorie. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que ces concepts théoriques peuvent être mobilisés pour mieux comprendre les inégalités sociales de santé ?
Les différents concepts, je pense que pour vraiment assurer une meilleure... pour avoir une assimilation... au-delà d'une assimilation, mais pour s'approprier véritablement les différents concepts sociologiques, je pense que l'université, et je pense que c'est le propre aussi de ce type de démarche méthodologique, notamment la recherche-action, c'est de pouvoir ouvrir l'université sur son monde extérieur, et puis en même temps amener ces questions de recherche en dehors des murs de l'université. Et c'est, je pense, vraiment l'enjeu central de ce type de travaux. Pour moi, en tout cas, ça a été extrêmement intéressant de pouvoir amener des gens qui n'ont jamais mis le pied à l'université pour venir, dans le cadre de colloques, de séminaires, de venir témoigner de leurs expériences. Et puis, de l'autre côté, d'amener le monde de la recherche, de démystifier un peu le monde de la recherche en dehors des murs de l'université, et pas que dans les quartiers, mais même dans le tissu associatif. Parce que je pense que tout le monde peut contribuer à la recherche scientifique, et je pense qu'il y a la mobilisation et l'implication des personnes concernées, surtout notamment lorsqu'on travaille sur des questions, je pense que l'implication des personnes concernées est le meilleur moyen de saisir la pluralité des enjeux, et puis l'ambivalence, et puis surtout la complexité des situations, parce qu'on peut avoir tendance des fois dans le milieu scientifique à avoir des visions extrêmement parfois manichéennes des choses, et je pense que amener de la nuance, amener des transactions, permet de démêler toute la complexité des situations qui peuvent exister, et ça amène, ça fait le lien avec la question des centres de soins communautaires. C'est cette question aussi, au-delà de la question de la dignité et puis de l'implication, c'est comment faire en sorte que la gestion de ces centres de soins soit portée avec les habitants. Et donc on va avoir aussi tout un tas d'initiatives, de collectifs qui vont se constituer autour des centres de santé portés par les habitants. Ça peut être des collectifs, par exemple, de jeunes adolescentes ou de jeunes femmes qui ont envie d'aborder les problématiques sexuelles auxquelles elles font face, les questions liées à l'endométriose, par exemple, les questions liées au papillomavirus, par exemple. Ça peut être ça va être en fonction des groupes sociaux, on va avoir du coup différentes problématiques qu'on aurait envie d'aborder et qu'on serait pas, enfin des problématiques qu'on serait pas à l'aise forcément d'aborder dans d'autres cadres, et donc les centres de soins permettent ça, en tout cas pour revenir, pour faire le lien avec cette question de comment on peut s'approprier les concepts. C'est, je pense, le fait de partir des expériences vécues, et ça rejoint cette démarche proposée au sein des centres de soins, et qui rejoint aussi la question de l'éducation populaire et des outils de l'éducation populaire, c'est-à-dire que ce soit les groupes de parole ou autres. Enfin, il y a, je pense, tout un tas d'outils qui peuvent être mobilisés, qui peuvent faire lien entre éducation populaire, santé communautaire, mutualité, mutualisme, les approches de l'économie sociale et solidaire, et cette question de faire aussi de la recherche un commun, finalement. Et, et donc de faire aussi de la recherche à plusieurs. Nous, ce qui a été intéressant aussi dans le cadre du collectif Santé en commun, c'est d'essayer de tester l'écriture à plusieurs. C'est quelque chose que je teste aussi dans le cadre de la thèse. C'est important de pouvoir lutter contre cet extractivisme de la recherche. C'est vrai qu'avant, on faisait... Enfin, avant, je pense qu'il y a encore pas mal de recherches qui sont ancrées dans ce schéma-là. C'est, il y a la posture du chercheur voilà, qui sait, et puis qui vient, qui prend des informations, qui collecte des données, et puis qui, voilà, qui produit son analyse. Et voilà, c'est-à-dire les personnes qui ont fait l'objet de l'étude ont très peu de je dirais pas de droit de regard, mais ne sont pas mobilisées dans l'analyse. Et n'ont pas d'espace finalement pour pouvoir échanger, confronter en tout cas leur perspective à eux par rapport à ce qui est produit en termes de science. Et donc du coup, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir dialoguer finalement. Je pense que la recherche scientifique et puis la recherche-action, en tout cas en sociologie, et c'est pour ça que au sein du collectif Santé en commun, on parle beaucoup aussi de recherche-action communautaire, et ça s'inscrit vraiment dans cette démarche éthique de reconnaissance des savoirs invisibilisés et puis de coproduction de savoirs. Comment, sur des questions qui nous touchent toutes et tous, on peut coproduire des savoirs ensemble à travers, en mobilisant des outils de l'éducation populaire, en mobilisant du coup différentes approches, et puis en travaillant sur ces formes de marginalité et sur les différentes formes de marginalité qui existent au sein de nos sociétés, de nos sociétés actuelles.
Justement, à la lumière de ces informations-là, quel avenir pour les approches communautaires de santé face aux défis actuels des inégalités sociales ?
Alors, je dirais, je pense que la fabrique des inégalités, elle continue, elle persiste, malheureusement. Et je pense que c'est, il nous faut une véritable lecture critique un peu de nos systèmes, de notre manière de concevoir nos systèmes de production et nos systèmes de consommation également. Et je pense que ça, c'est une responsabilité collective que de questionner du coup nos systèmes économiques et vraiment de reconnecter alors de la reconnecter, parce que je pense qu'elle s'est voilà, de reconnecter les enjeux sociaux et la question économique sont intrinsèquement liés. Et je pense que finalement dans cette fabrique des inégalités, on va avoir des inégalités qui vont être plus, enfin voilà, comme on l'avait évoqué sur cette question de l'imbrication. Et donc travailler les différents mécanismes qu'on peut avoir pour pallier l'intersectionnalité, enfin pour pallier en tout cas le caractère intersectionnel de ces inégalités là, je pense que c'est extrêmement important de penser autrement du coup la manière de faire soin. Et là, ici, vraiment, c'est le soin avec un grand S au sens large du terme, et de penser la santé aussi dans une approche vraiment holistique, en s'intéressant vraiment à nos écosystèmes, du coup à nos milieux de vie, à notre environnement. Et donc ça amène aussi la question écologique au cœur du débat, ça amène aussi la question la question raciale aussi au cœur des débats, parce que je pense que c'est important de rendre visible, et puis au moins de pouvoir aborder sans forcément être dans le déni de ces inégalités là. Et je pense que ça amène aussi à sortir des différentes formes d'essentialisation qui peuvent être faites finalement en abordant les différents non-dits qui peuvent exister autour de ces questions-là. Et ça permettrait, comme je le disais tout à l'heure, vraiment d'aller vers des approches communautaires qui permettrait vraiment de désengorger un peu les hôpitaux, les institutions. Après, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça devienne non plus un palliatif ou une solution à tous les problèmes, parce que je pense que sur le long terme, il faudra repenser l'organisation du système de soins. Et donc, parce qu'en vérité, des centres de santé communautaires, il nous en faudra dans tous les territoires, et pas que dans les quartiers populaires. solidaire dans les villages, dans les villes, enfin dans les quartiers, dans les différents espaces. Et ça permettrait vraiment de revenir à une santé de proximité, à rendre accessible la question du soin, et puis d'envisager vraiment aussi les questions de santé environnementale, c'est-à-dire la question de la santé, elle peut être aussi pensée quand on pense à un plan urbanistique d'une ville. La question de santé, il faut qu'elle soit au cœur. Et ça, malheureusement, c'est encore un enjeu. Alors, il y a des... quand on parle des différents dispositifs et instruments institutionnels qui existent, alors il y en a plusieurs et ils sont extrêmement ambitieux et c'est très bien. Maintenant, comment on peut faire pour articuler tout ça ? Et je pense que parler de santé, parler de la ville, parler de la question écologique, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux qui sont extrêmement reliés et il faut pouvoir les aborder dans une juxtaposition et arriver à trouver le moyen de conjuguer ces questions-là ensemble.
Sarah, j'ai une dernière question. C'est une question qu'on pose à toutes les personnes qu'on a eu la chance de pouvoir interviewer dans le cadre de nos podcasts. Alors, un livre, un film, un podcast, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou alors un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Alors je partagerai peut-être les lectures du moment. Je pense comme ça au bouquin de Cynthia Fleury, Clinique de la dignité. Et je pense aussi au Le labyrinthe des égarés d'Amin Malouf.
Merci beaucoup. Alors on espère que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci Sarah.
Merci.